Bon, mesdames et messieurs, on va commencer. Donc, moi, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui, à sa demande, parce qu'il sait que je suis un de ses lecteurs, Jean-Paul Loube, que je pense tous ici connaissent, à la fois pour ses écrits sur la Chine, mais aussi pour ses ouvrages poétiques et son dernier ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire il y a 2 ans, « Je ne suis pas Jacques Kerouac », qui est sorti juste avant la parution de la dernière version inédite de Sur la route. Donc aujourd'hui il sort, enfin aujourd'hui c'était en octobre 2010 ou novembre, je ne sais plus précisément, un nouvel ouvrage qui s'intitule « Traité d'architecture sauvage » et sur lequel on va dire 2 mots. Un ouvrage qui, lorsque j'ai lu d'ailleurs, m'a fait rejoindre un peu cette lecture avec « Je ne suis pas Jacques Kerouac », c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'œuvre de Jean-Paul Loube, il n'y a pas de rupture, je crois, entre la critique, la fiction, la poésie et l'architecture. Hein. D'ailleurs, dans cet ouvrage, il développe un concept de... Comment il est ce concept ? C'est
architecture située.
Architecture située, oui, mais enfin, avec le mot poétique qui intervient quand même. Géopoétique, voilà. Alors, bon, voilà, c'est une des premières questions que je poserai. Qu'est-ce que c'est que la poésie dans l'habité par rapport à la littérature, puisqu'on parlait de Kerouac tout à l'heure ?
Oui. Donc moi, ce que j'ai voulu faire là, dans ce travail, bon, j'arrive à un âge, je suis un vieux professeur, j'arrive à un âge où si on a compris 2 ou 3 choses et qu'on a envie de les transmettre, il est urgent de les écrire. Donc j'ai essayé de mettre au clair, en attaquant frontalement les questions, un certain nombre de questions qui me venaient. Donc la question de l'habiter, telle que tu l'amorces, qu'est-ce que ça veut dire habiter ? C'est la question centrale, habiter au-delà des besoins fonctionnels et biologiques, qui bien entendu doivent être couverts, manger, dormir, se reproduire. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'habiter un lieu, un appartement, une ville, un quartier, habiter le monde ? Donc c'est là que la question va rejoindre à un moment donné du discours. Il y a un chapitre un petit peu filandreux pour certains étudiants sur la question de l'habiter. Et c'est là que vont intervenir des références comme la géopoétique de Kenneth White, qui lui-même convoque Heidegger, et lui-même convoquant les vers de Hölderlin sur « Partout sur cette terre, l'homme habite en poète ». Donc c'est l'interrogation de l'habiter au-delà, d'une part, du fonctionnalisme du début du siècle qui a défini pour partie l'habitat, mais aussi de la dérive actuelle du logement comme produit financier, où ça devient tout à fait autre chose. J'étais hier à un doctorat à Belleville sur la ville chinoise de Wuhan, où la jeune chinoise qui présentait son doctorat nous expliquait qu'en 5 ans à Wuhan, c'est une ville immense avec ces images que vous avez vues à la télé d'immeubles sur des grilles, la perte de vue, le prix du logement en 5 ans se multiplie par 6. Voilà, donc ces chiffres-là, ces données un petit peu astronomiques, interpellent sur ce produit, ce qu'on appelle un produit aujourd'hui, qu'est le logement. Donc j'ai voulu revenir un peu à la base et interroger un certain nombre de questions, dont celle-là, mais qui vient peut-être en termes d'explication de certains faits beaucoup plus concrets, qui sont les premiers chapitres du livre.
D'accord. Alors, donc, je pose une petite question un peu insidieuse, excuse-moi, puisque tu remets en question sans cesse dans ce bouquin le fonctionnalisme et le mouvement moderne, et je partage très largement la plupart des idées que tu avances là-dessus, que tu exprimes d'une manière extrêmement véhémente. Oui, c'est vrai, tu revendiques une autre manière de loger, une autre manière d'habiter. Alors la question que je pose, c'est comment expliques-tu quand même que lorsqu'on détruit des tours, les gens pleurent en voyant disparaître leur lieu où ils ont vécu, où ils ont passé des années ? Comment on peut expliquer quand même que ces lieux aussi, au départ, anonymes, sont investis quand même par des gens qui mettent une poésie qui est la leur et qui est leur histoire.
Oui, mais ce constat, à mon avis, il conforte cette idée de l'habité. Si ces gens mettent tant d'attachement dans ces tours, c'est parce qu'ils ont leur vie et leur histoire. Et c'est là qu'on est dans l'anthropologie. Ça, c'est la véritable habité. Ces gens l'ont habité avec les difficultés de ces zones urbaines. C'est cette dimension-là qu'il faut réintroduire. Et on voit très bien que ça ne peut pas se réduire à un produit fonctionnel. La question du fonctionnalisme, c'est une évidence. Personne sur Terre n'a jamais construit de logement antifonctionnel. Donc, quand au début du siècle, on définit l'habitat comme devant être fonctionnel, c'est complètement vrai. Il n'y a rien à... C'est évidemment que ça doit être fonctionnel. C'est simplement insuffisant. C'est simplement un peu court, dont la question de l'habitat a été déshabillée des autres dimensions. Dont là, le but de ces séquences de cours, de conf ou autres, était de voir quelles sont ces autres dimensions qui ont été perdues, laissées sur le côté, laissées pour compte, qu'il va falloir réintroduire. Et je me distingue totalement de la vulgate écologique d'aujourd'hui, qui est un autre envahissement facile, qui ne fait rien bouger sur le fond, hein, que ce soit bien d'accord. Et mon propos, mon essai ne propose pas de réponse. Ce n'est pas une nouvelle théorisation sur la ville de demain. C'est un questionnement, mais qui, de mon point de vue, a trouvé une difficulté à être fait jusqu'à présent chez les architectes et chez les urbanistes. L'exemple est l'interrogation de ce qu'on appelle l'informel. Qui est une autre, une des premières dimensions. Bon, la structure de ce travail, le chemin, si vous voulez, c'est d'abord d'interroger des phénomènes en matière de bâti, d'habitat, sur lesquels les sciences humaines ont produit des discours, les urbanistes, pas du tout. C'est quoi ? C'est l'habitat informel, c'est-à-dire le bidonville, dans toutes ses formes. Et c'est évidemment pas un plaidoyer pour le bidonville comme réponse au problème du logement. C'est simplement constater que quantitativement, le XXIe siècle produit essentiellement de l'informel et du bidonville. Bombay, 12 millions d'habitants, 3 millions de gens vivent dans le bidonville. Le plus grand bidonville de Bombay, Dharavi, 700 000 logements, soit trois fois la politique du logement dans un pays comme la France. On construit environ entre 200 et 300 000 logements par an. On a des chiffres faramineux. Si j'ajoute Lima, Lagos, Istanbul, Le Caire, etc., etc., on arrive à des chiffres qui sont insaisissables par l'urbaniste, quantitativement. Donc il est bien évident que jamais l'institution, avec ses produits notamment dessinés par les architectes, ne va pouvoir rattraper cette affaire-là. Donc on s'installe dans un urbanisme planétaire avec une nouvelle forme d'habitat que nous n'avons pas saisie, sur laquelle nous n'avons pas de discours. Alors les ONG ont un discours, les assistantes sociales ont un discours, les curés, les mollahs ont un discours, les architectes, les urbanistes essaient de le combattre, essaient de rattraper quelque chose d'irrattrapable. Donc là, il y a une question énorme sur laquelle moi, je n'apporte pas de réponse, mais je demande à mes étudiants, notamment, de l'attraper, de la prendre à bras le corps. Alors, je ne sais pas si la réponse est par les urbanistes ou par les architectes. Je n'en sais rien. Je sais que beaucoup d'architectes, de jeunes, d'anciens étudiants, partent à Rio, partent au Brésil, font carrière dans les bidonvilles, font du bon boulot. Mais ils ont raison de le faire, c'est bien, mais... On est bien d'accord que ça ne peut pas apporter la réponse quantitative. C'est les chiffres qui sont effrayants. Donc voilà un des phénomènes que j'essaie de questionner.
Alors justement, bon, je voulais embrayer avant même que tu le lances, les questions du bidonville. C'est intéressant. En 1970, est paru un numéro spécial de la revue Architecture d'aujourd'hui consacré à la ville. Je m'en souviens très bien. C'est un numéro qui est très très épais, qui avait eu beaucoup de retentissement parce que justement dans ce numéro spécial, était présentée une vision de la ville tout à fait non conventionnelle. Il y avait une étude de deux Italiens, dont j'oubliais les noms, sur la Médina de Tunis, une ville donc historique. Il y avait une étude de Roland Barthes qui s'intitulait « Sémiologie de la ville ». C'était aussi intéressant. L'étude donnait un sens finalement à la ville. Et puis il y avait un gros travail sur le bidonville de Nanterre à l'époque que les étudiants traversaient quand ils allaient à l'université. Et ce travail, lorsque donc maintenant j'y repense, mais évoque beaucoup les pages que tu as écrites là-dessus, sur, pas sur les bidonvilles français, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, ou on pense qu'il n'y en a plus, en tout cas ces bidonvilles d'Amérique latine. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire essayer de justifier ou d'expliquer en quoi le bidonville est intéressant? Voilà.
Oui. Moi, je ne sais pas s'il est intéressant. Je sais qu'il est. Voilà, c'est ça que je voudrais faire comprendre. Parce que quand quelqu'un parle d'un sujet comme le bidonville, qu'est-ce qu'il trouve de beau dans le bidonville? Qu'est-ce qu'il voit comme amorce de solution? Ce n'est pas du tout ça. Le bidonville existe. Je vais quand même le préciser, là. Je vais me permettre de lire une dizaine de lignes. Bombay, la plus riche des villes indiennes, loge la moitié de ses 12 millions d'habitants dans des bidonvilles. À titre de comparaison, la population totale de la Norvège est de 4 millions d'habitants. Donc, à Bombay, vous avez la population de la Norvège qui vit en bidonville. Et ces chiffres sont très importants parce que c'est eux qui vont définir la nature de la question que je pose. Ce n'est pas l'esthétique du bidonville, qui est une autre question qui a passionné des gens depuis très longtemps, des photographes, des architectes. Il y en a évidemment une. C'est une production, c'est un artefact. Bon, il y a toute cette dimension. Mais si je continue, la densité d'une ville, de ce bidonville dont je parle à Bombay, c'est 20 000 habitants par kilomètre carré, soit 4 fois supérieure à celle de Tokyo. Les prix des terrains y sont comparables à ceux de New York, Tokyo ou Hong Kong. Enfin, on estimait en 2004 à 300 le nombre de familles qui arrivaient chaque jour à Bombay. À lui seul, le bidonville de Dharavi, considéré comme le plus grand d'Asie, comptait 700 000 logements entassés sur 3 km carrés, soit 233 000 habitants par kilomètre carré. Donc là, je balance des chiffres qui sont insaisissables pour l'architecte. C'est impossible à concevoir. On ne sait pas nous faire avec des chiffres comme ça. Et pourtant, ça se fait. Donc il y a là un phénomène. Il faudrait qu'on se branche dessus très sérieusement. Les prix dont j'ai parlé. Pourquoi les prix ? Je dis le prix de bidonville, d'un terrain dans un bidonville, est équivalent à celui de New York. Ça, c'est extrait de Prachad, c'est le correspondant depuis 10 ans de France Culture, France Inter, Radio France, on va dire, en Inde. Ces chiffres viennent, ils sont donc référencés par cette source. Il y a une économie, par exemple. Il y a une économie, puisque c'est là, à Dharavi, qu'on fabrique les chaussures de sport, Adidas, tout ça. Tout ça vient de là. Il y a des fluides. Il y a des gens qui distribuent de l'eau, il y a des gens qui distribuent de l'électricité, il y a de la voie pour accéder, pour amener les camions. Il y a une structure, on dirait, c'est structuré, c'est un établissement humain qui peut donc être regardé en ces termes-là. Voilà. Alors, c'est pourvoyeur d'énergie, de fluide, l'eau, l'électricité, le téléphone. Oui, ce sont des mafias. Alors ça m'a intéressé. Ce sont des mafias. Et puis je lisais dans d'autres journaux, très respectables, Le Monde et autres, les comportements mafieux de Vivendi, quoi. Donc, oui, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les comportements mafieux des grandes compagnies, des multinationales qui étranglent beaucoup de ces pays dans les domaines de l'assainissement, et puis ce qu'on appelle les mafias à Istanbul ou ailleurs qui donnent de l'eau au robinet, voilà. Donc ça oblige à un discours, c'est très radical, je me rends bien compte du côté radical de ces propos, mais c'est le phénomène lui-même, à mon avis, qui oblige à le saisir, à s'en emparer de cette façon.
D'accord. Alors, bon, pour continuer donc sur cette question, et c'est ce qui ressort à la lecture de ce bouquin, c'est que... Tu questionnes dans un premier temps beaucoup d'architectures qui ne font pas intervenir des architectes. Il y a d'une part le bidonville, donc, qui n'exclut pas des spécialités, hein, bien entendu, mais où l'architecte semble complètement absent. Et d'autre part, il y a la cabane. La cabane, d'ailleurs, qui me renvoie à ton livre sur Kerouac, où tu décris un long moment que tu passes dans une cabane, je ne sais pas où, au Canada, je crois, non ?
Oui.
Voilà, en plein hiver, dans un isolement complet. Et puis la cabane, ce mythe de la cabane revient là dans ce livre. Tu le développes, tu en parles, tu l'analyses, tu pars de la cabane primitive, celle de Laugier, l'inventeur, enfin celle qui aurait donné naissance à l'architecture, etc. Et alors c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que là où justement toute l'histoire de l'architecture recomposée par Laugier au XVIIIe siècle fait de la cabane l'origine de l'architecture. Toi, tu fais de la cabane le lieu où n'intervient pas l'architecte. Comment peux-tu répondre à cette question ?
Oui. Donc, à côté de l'informel là, que je creuse, que je mène jusqu'à l'interroger le plus que je peux, je m'empare aussi à un moment donné de la figure de la cabane. Pourquoi je m'en empare ? Parce qu'elle apparaît partout actuellement. Elle apparaît dans les revues, elle apparaît dans les pratiques d'architectes, les cabanes de luxe. Quand vous cliquez cabane sur Internet, vous tombez sur des propositions de week-end en cabane dans les Landes, ici, 300 euros le week-end pour un couple et ses enfants. Elle apparaît dans l'architecture. Donc là, je parle du premier immeuble d'Édouard François à Montpellier, le premier que j'ai connu avec cette adjonction de cabane à l'extérieur des logements. Et maintenant, à côté de l'école d'architecture à Gradignan, dans la route, dans le supermarché avant la prison, la même figure, donc un HLM, si vous voulez, avec extérieurement, sur des pilotis, à chaque niveau, des cabanes. Qu'est-ce que c'est que cette émergence au début du XXIe siècle, à l'ère des autoroutes de l'information, du tout technologique, des utopies urbaines qui sont censées recouvrir toute la planète, hein, notre destin est urbain ou ne sera pas, tout d'un coup, on voit ressurgir cette figure. Et donc là, c'est intéressant. Puis il y a des gens qui ont étudié ces questions-là un petit peu. C'est une figure primitive. Les argumentaires de ces marchands de week-end en cabane, qui sont des produits d'un dessin extrêmement valorisant, extrêmement beau, on a très envie d'aller y passer quelques temps, les argumentaires vous parlent du rêve primitif, vous parlent de retrouver les origines. Le langage est clairement un langage qui convoque une mémoire, une supposée mémoire. Moi, je crois qu'elle existe, qu'elle est réelle, que nous aurions de notre temps. Alors, est-ce le chasseur du paléolithique ? Et puis, bon, plus simplement, on a tous un rêve de cabane. Donc, voilà quelque chose qui est intéressant à interroger pour l'anthropologue. Et maintenant, il ressurgit comme... Il réapparaît dans les propositions architecturales. Ce sont des cabanes de luxe, hein, cabanes dans les arbres pour les artistes d'Hollywood. Voilà la deuxième figure qu'il faut interroger. Alors, l'immeuble d'Édouard François Montpellier, pourquoi il est intéressant ? C'est un HLM banal. Imaginez, faites-vous le film, vous êtes dans votre séjour, un séjour très normé, banal. Vous avez une porte. Vous ouvrez cette porte et vous avez une passerelle de 6-8 mètres en bois qui vous conduit là-bas à un carré dehors, une cabane. Cette cabane est sur pilotis. Vous êtes au troisième étage, il y a deux étages au-dessous. Vous avez des arbres entre les cabanes. Il y a un coup de vent, il y a des feuilles qui tombent sur le sentier, sur la passerelle. C'est énorme, cette modification du logement. C'est énorme d'avoir un logement comme ça, de pouvoir, par exemple, s'apercevoir qu'il y a des saisons. Vous sortez, est-ce que je vais pouvoir déjeuner là-bas sur la terrasse, sur la cabane ? Non, il fait trop froid, l'été, vous êtes à l'ombre. J'ai vu dans cette proposition quelque chose qui interrogeait fondamentalement ce qu'était devenu le logement en termes de produits de série, normés, voilà. Donc ça, c'est une autre voie. Alors on a envie d'aller voir qui en a parlé de la cabane. Qui sait. Alors Bachelard a-t-il parlé de la cabane? Non, il a parlé de la maison, il a parlé du grenier. Il n'a pas parlé de la cabane. Et là, peut-être que ça va répondre. La cabane, elle est la cabane de l'enfance. Il y a peut-être encore des gens de nos âges qui ont fait des cabanes, quelque part dans leur village, dans le quartier, sur le port avec les caisses de varan. Cette cabane, elle est destructible. Elle n'est pas étanche. Elle ne protège de rien. Elle a des odeurs. Si c'est une cabane avec des caisses de hareng, comme Kenneth White les faisait sur les ports en Écosse, ou avec des feuilles d'arbres qu'on casse, on sent les résines. Elle a une porosité qui est le contraire de la protection. Quand Bachelard parle de la maison, il dit la maison protège, la maison est un château fort, la maison est un bunker contre les agressions. Évidemment, c'est un foyer. Le but d'un foyer, c'est de protéger les siens. Le but de la cabane, c'est au contraire de rechercher la porosité. Et c'est là que la question de la géopoétique intervient, puisque la poésie de Kenneth White, qu'il prône, enfin qu'il pratique et qu'il essaie d'expliquer, de donner à aimer, c'est une poésie qui n'est pas la poésie du moi, qui n'est pas la poésie du mot, le jeu de mots, l'oulipo, c'est la poésie du monde, c'est-à-dire la question d'une ouverture. Donc j'ai vu dans la figure de la cabane une façon de s'envelopper qui est une mise en connexion, une mise en communication, si vous voulez, avec le monde autour, avec l'univers, avec le cosmos, avec les astres, les étoiles, les vues, les odeurs. Et là, on est dans la problématique géopoétique.
D'accord. Et en même temps, on est donc dans la problématique d'une architecture située, si je comprends bien, avec une cabane.
Et bien évidemment, puisque une cabane, c'est un aménagement du lieu. Elle n'est rien, elle a les matériaux du lieu. Donnez l'exemple, une cabane sur le port, ben c'est les caisses qu'on a récupérées. Une cabane en forêt, ben c'est les arbres à proximité. Donc elle est une espèce d'interface entre soi et le monde autour, fabriquée avec les matériaux du lieu. Donc elle ne cesse de dire où elle est située. Elle va être en pierre sèche, par exemple, si je fais des boris dans les régions calcaires. Donc l'idée, c'est de prendre ces figures, de voir d'abord qui les a explorées. Donc, allez voir chez les architectes d'aujourd'hui, je le fais un peu. Bon, les Vassal Lacaton avec la maison du Cap Ferré. La maison du Cap Ferré est une maison très très riche, bien sûr. C'est pas une cabane misérable. Mais l'argumentaire, quand on lit ce qu'en dit l'architecte, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il a dit je veux que cette maison aille aussi loin que les passes du bassin d'Arcachon et l'île aux oiseaux. Je veux faire rentrer, dans cette idée de faire rentrer l'extérieur dans la maison. Voilà quelque chose de très précis qui, pour l'architecte, va conduire sa façon d'aborder la question des vues, par exemple. Quel est le but de l'ouverture d'une fenêtre? C'est de faire rentrer du dehors. Et oui. Bon, on peut voir les autres procédures.
Cette maison est en métal et en verre, pourtant.
Oui, oui.
Donc le matériau local n'est totalement absent, là. Si ce n'est par les arbres qui la traversent, mais ils ne servent pas de matériaux.
Oui, je suis d'accord. Il y a multiples façons de faire des maisons. L'autre exemple que je traite, c'est une maison à Sommières par, je ne me rappelle plus, François Roche peut-être. Une maison qui est faite avec des matériaux de la jardinerie, on va dire. Plastique, grillage, camouflage, friable, une volière, si vous voulez, comme esthétique, l'esthétique de la volière. Donc lui a choisi, ce sont des matériaux fabriqués aussi, hein, même avec du pétrole aussi. Ce sont bien sûr les matériaux du XXIe siècle. Hein. Nous faisons des cabanes avec les matériaux sous la main, et là on revient un petit peu au bidonville, les gens prennent les matériaux qu'ils trouvent sur la décharge, hein, pour faire leur cabane. Mais ce que j'ai cherché à montrer, c'est cette dimension anthropologique de l'habité. Ça ne nous suffit plus d'avoir le gîte et le couvert. Quoi. Ce sont des nécessités vitales, incontournables, sinon on meurt. Hein. Mais la question de l'habité, au sens que nous cherchons à lui donner, qui donne un sens dans notre relation au dehors, notre relation. Nous sommes des sociétés laïques. Nous n'avons plus la religion. Donc, quelle est notre accroche avec l'univers, avec le cosmos? faut chercher une voie. Alors, une, c'est de tisser sa propre vie en parvenant à se situer par ces procédures-là, que sont l'habitat notamment, à se situer dans un lieu et quelque part. Et l'an dernier, moi, est arrivé dans mes mains justement par Jean-Marie Billa, qui n'est pas là, qui nous cultive beaucoup en nous proposant ses bouquins, le traité d'Alberto Magnaghi, qui lui se passe à une autre échelle, qui est le projet urbain, le projet local, s'appelle ce livre-là. Le projet local, donc c'est un géographe, c'est pas un architecte, et qui attaque la question au niveau de l'aménagement du territoire, en disant les ressources de l'aménagement du territoire doivent être les ressources locales. Bon, on peut essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, par exemple, pour la conurbation autour du bassin d'Arcachon. Quelles sont les ressources locales du bassin d'Arcachon, tourisme, ostréiculture, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément des usines de fabrication de chaises ou qui sont installées dans les zones industrielles, du Barc, de Marcheprime ou autre. Enfin, peut-on retrouver, en matière de développement, là, à cette échelle-là, voilà, peut-on retrouver une relation entre l'endroit où on vit et ce que l'on produit, ce que l'on fait de notre existence? Voilà un peu ce qui surplombe la question.
D'accord. Alors, donc, ça me renvoie là quand même aussi à une question que tu soulèves, mais que tu ne la soulèves pas beaucoup dans cet ouvrage, et pourtant, elle me semble permanente quand même dans le questionnement qui est le tien. C'est la question, c'est le problème du régionalisme, enfin de l'architecture régionaliste ou néo-régionaliste, c'est-à-dire d'une architecture qui a été produite donc sur un lieu et qui peut aussi servir de modèle à une architecture nouvelle qui s'en inspire. Que penses-tu dans des avatars justement de ce régionalisme sous la forme d'un néo-régionalisme tel que le néo-basque ou le néo-landais, j'en sais rien. Est-ce que ça te convient comme geste architectural?
Alors moi ça me convient pas parce que par ma formation d'architecte, par la culture qu'on m'a fabriquée à l'école d'archi et que j'ai trouvée très jouissive et que je revendique, je suis dans un autre système esthétique. C'est-à-dire que j'arrive à goûter l'architecture, à la lire, avec d'autres lignes de lecture, on va dire, d'autres décorums que ceux du régionalisme. Ceci dit, je sais très bien, pour avoir pratiqué en tant qu'architecte libéral, pour avoir rencontré des particuliers, des élus, de quelque niveau qu'ils soient, je sais très bien que pour eux, ça fait sens, la région, ça fait sens. Donc, est-ce que la question est de savoir si ça me plaît? Là, je me suis exprimé, je n'ai jamais fait ça, je ne le sens pas, mais je constate que ça existe et que les gens établissent un rapport, une relation avec l'objet architectural qui peut passer par un langage qui évoque pour eux la région. Alors, soit au premier degré, au deuxième, au troisième, au quatrième. C'est pour ça que je n'arrive pas à me moquer des gens qui revendiquent, qui essaient de reconnaître quelque chose, une région, par exemple. Ils essaient dans la maison de reconnaître une région. L'anthropologue a une distance énorme avec ces phénomènes. La question n'est pas ce qu'il aime lui, ce qu'il ferait pour lui, pour sa famille, ses copains. L'anthropologue est obligé, son job, c'est d'étudier des phénomènes qui se passent et d'essayer de les comprendre, de les expliquer. Et la première des choses qui se passe, c'est qu'il prend conscience qu'il est dans une culture et qui n'est pas nécessairement la culture des gens qui l'ont en face. Par exemple, la pratique des concours d'architecture. Au niveau départemental, au niveau régional, que j'ai pu avoir quand je m'occupais d'un conseil d'architecture. J'ai bien vu dans un tour, autour d'une table, quand on va décider, par exemple, tel collège à Mont-de-Marsan, j'ai bien vu que dans les propositions qui sont proposées au jury, c'est jamais le projet que j'aurais aimé qui sort. Celui qui correspond le plus au dernier courant d'architecture qui m'ont séduit, c'est jamais celui-là. Et les architectes présents déplorent toujours le choix du projet architectural. Et ça se joue souvent au discours du projet, à ce qu'il dit en le voyant. Ça passe par ses langages, par des annotations, par quelque chose qui permet de s'y reconnaître. Je pense qu'un des problèmes rencontrés par l'architecture donc fonctionnaliste, mais plus largement moderne, internationale, dont je parle, un des problèmes, c'est la difficulté que les gens ont eue à établir une relation avec ces formes. Voilà. Donc on est au-delà du beau et du laid. C'est la difficulté d'établir une relation avec des formes. Un exemple, le cube de verre qui est dépassé il y a une dizaine d'années, le must, le minimalisme, c'était le cube de verre de Dominique Perrault qui enveloppait un hôtel, qui enveloppait une usine. Bon. Un aquarium en verre, nous pouvons le goûter puisque minimalisme, ça nous parle, on va le rattacher à des références. Mais le discours, la communication qu'établit cette forme avec les usagers, elle est inexistante. Que dit un cube de verre ? Il ne dit rien. Donc, voilà, cet exemple me paraissait l'exemple extrême. On peut parler aussi des architectures blanches ou des architectures grises, celles qui ne signalent plus rien. La disparition des signalétiques de base, par exemple, dans les logements. Exemple, l'Institut du monde arabe à Paris, très beau bâtiment. J'en parlais avec des étudiants cet après-midi. Très beau bâtiment que moi, j'utilise pour montrer la bonne architecture, intelligente au plan urbain, enfin, d'une richesse extraordinaire. On ne sait pas où est l'entrée. Donc quand vous allez à l'Institut du monde arabe, vous avez un rez-de-chaussée en verre et vous cherchez où est la porte à pousser. C'est très beau. Il y a un désir de se priver d'une signalétique. Et on se demande la raison. Pourquoi ne faut-il pas indiquer à la personne qui va rentrer où se trouve la porte ? Pourquoi faut-il qu'il... Alors, comment ça se résout ? Ça se résout avec des papiers, comme ça, scotchés, quand il y a une expo, que les employés viennent coller sur la vitre, avec une flèche, entrée, troisième porte à côté. Alors, on appelle ça, si on veut faire savant, de la signalétique de suppléance. C'est pas géré par l'architecte, c'est pas pourvu, donc on vient corriger après. Donc voilà cette espèce d'appauvrissement, de chemin. Là, j'ai montré le chemin, je ne condamne pas l'Institut Monde Arabe, je relis un beau bâtiment. Mais j'essaie de donner des exemples du chemin qui a été suivi pour réduire ou rendre plus difficile le rapport des gens au logement. Et ça exclut aussi la question des décorums régionalistes. Moi, je rappelle que le mouvement moderne a théorisé sur la disparition du décorum. Le décorum est taillissable. Le décorum, c'est quoi ? C'est une couche d'informations, de dessins, de choses, de récits. C'est un récit sur une façade, par exemple, qui va mettre en communication. Art déco, modern style, bon, il y a tout un tas de... Quand vous voyez les maisons de Gaudi, vous passez un petit moment quand même avant de rentrer à regarder la façade. Ça vous raconte, ça vous fait rêver, c'est onirique ou c'est réaliste, c'est premier degré ou pas. Il y a toute une séquence extérieure où le bâtiment se met à vous parler, à vous faire rêver. Bon, mais cette affaire-là, on a théorisé sa disparition. C'était pas bien, quoi. C'est pas bien, il faut pas. Pourquoi ? De quelle nature est cette interdiction ? Ça n'a jamais été dit. Voilà, donc là, on le trouve ça chez Corbu, on le trouve chez Lodz, on le trouve chez des Allemands, des Hollandais. Bon, il y a toute une histoire sur l'abolition du décorum.
Oui. Enfin, ça a été dit. Je veux dire, Adolf Loos l'explique, je veux dire, d'une manière très simple. Pour lui, c'est inutile. Et la suppression de l'ornement chez Loos est une réaction à l'abondance ornementale de l'art nouveau viennois. Oui, dire qu'il faut, ça se comprend aussi comme ça, d'une certaine manière. Oui, voilà. Bon, donc ça se situe dans une histoire. Alors moi, je voudrais revenir sur la maison de verre. Je me pose quand même une question. La maison en verre, il n'y a pas plus situé qu'une maison en verre. C'est-à-dire, il n'y a pas plus conforme au site et inscrit dans le site qu'une maison qui s'efface. Justement, pour laisser le site la traverser.
Oui, mais je crains que si tu expliques ça au néophyte, enfin celui qui n'est pas passé par nos écoles, il va rester sceptique. C'est toi, tu l'as le chemin. Moi, je l'ai, on l'a. On est capable d'expliquer ce que tu as dit et de le démontrer. Mais je crains que quelqu'un qui n'est pas de cette chapelle soit sceptique. Voilà, c'est un peu ce constat de la pluralité des cultures par rapport à l'architecture. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va faire la pédagogie par des outils pédagogiques qui existent, qui sont très très bien et il faut continuer. Je ne crois pas que ça vise à aplanir, à donner à tout le monde la même culture architecturale. Je pense qu'il y a des gens qui en élaborent une autre, dans leur secteur, dans leur vie, dans leur tranche de vie.
Alors, dans ton livre, là, donc, où tu fais allusion à un moment donné, d'ailleurs, je viens de le revoir, là, j'avais oublié, mais tu as... J'allais te poser la question, mais en fait, tu en parles. À propos de ta cabane, bien sûr, tu parles de Le Corbusier, de son cabanon de Cap Martin, qui est un exemple, là, vraiment tout à fait étonnant, d'un homme qui revient à quelque chose qu'il a toujours condamné, d'une certaine manière, et s'installe dans un minimum vital de bois devant un paysage marin absolument fantastique. Et donc la mer me renvoie bien sûr à tout le dernier chapitre de ton livre, qui est entièrement, avant la conclusion superbe, qui est entièrement consacré à ce pauvre Salvador Dali que tu vas sauvagement assassiner, ou plutôt sa femme, pardon, excuse-moi. C'est plutôt sa femme qui en prend un coup. Mais là, je pense que tu as tout à fait raison, d'ailleurs. Parce que, bon, tu le présentes, effectivement, comme quelqu'un qui, tout d'un coup, va se laisser emporter par autre chose que la poésie du lieu dans lequel il s'installe. Voilà. Alors, si tu peux revenir un petit peu, au moins pour tout ce public, sur cette histoire extraordinaire des cabanes de Port-Liégat, ça serait intéressant, je crois.
Oui, alors le personnage de Dali, moi je l'ai attrapé à la fin de ce travail, parce qu'il me semble un peu synthétiser beaucoup des aspects de ce propos, notamment la question de la poésie, la question de la géopoétique, c'est-à-dire la poétique de la terre, et puis la question de la cabane. Pourquoi ? On connaît tous le personnage Dali tel qu'il s'est inscrit dans l'histoire, voilà. Mais je suis tombé sur le journal d'enfance de Dali. Il écrit ce journal à 16 ans. Ça s'appelle « Journal mes souvenirs d'enfance ». Le titre le plus précis qui soit, « Mes souvenirs d'enfance ». C'est traduit en français très récemment « Journal d'un génie ». Donc déjà, le déplacement du titre vous propose ce que vous voulez entendre. Il ne s'agit pas du tout d'un génie. Et ce qu'écrit Dali... avant 20 ans, quand il est dans les écoles d'art, à Cadaqués, à Gérone, ensuite ailleurs en Espagne, pour être mis entre les pattes de Kenneth White. Bon, je lui ai dit, ça ne lui fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Donc j'ai repris des mots, des poèmes, des écrits, sa façon. Ce n'est pas le Dali du moi, de l'hyperdimensionnement du moi que l'on connaît, la plus grande courtisane de tous les temps, comme il s'est qualifié, c'est le Dali qui peint des tableaux à la manière de Cézanne, à cette époque-là. Donc tout un Dali que je ne connaissais pas, je ne suis pas spécialiste de la peinture. Et puis, il rencontre Gala. Son père recevait beaucoup d'artistes, Garcia Lorca, Miro, à Cadaqués. Un jour, Paul Éluard vient avec son épouse, qui est Gala, donc, et elle ne repart plus de Cadaqués. Éluard repart tout seul et elle reste toute sa vie donc avec Salvador Dali. Et Dali achète une première cabane, parce qu'il veut continuer à peindre ainsi que je vous l'ai décrit. Il veut attraper les nuages, il veut attraper le soleil sur les volumes de pierre des maisons de pêcheurs, la peinture des bateaux. Là, il travaille là-dessus, Cézanne, hein. Et il achète une première cabane, 4 mètres sur 4, à un pêcheur à Port-Liégat. Il s'installe avec Gala. Et puis, il n'a pas les moyens. Il l'achète, il se fait avancer le prix de la maison par un mécène. Et il lui paiera avec un tableau plus tard, ce qu'il fait. Et il y a tout un discours de Dali qui nous explique comment il utilise cette cabane, qu'est-ce qu'il vient y faire, il s'écarte du monde, enfin, il s'est fâché avec son père lorsqu'il a rencontré Gala. C'est vraiment... il est dans la cabane. C'est le Dali des cabanes. Voilà. Et peu à peu, on voit se transformer. Et dans ce que j'ai essayé de mettre en parallèle la croissance de la maison de Dali avec sa propre mutation interne. Donc, première maison, 20 mètres carrés. Et toutes les maisons de ce village de Cadaqués sont des cubes. C'est des maisons, on dirait, il y a un type architectural répétitif, qui est le cube. Une maison carrée pour mettre le bateau, une porte, une fenêtre étroite, et puis chaque pêcheur a ça. Il commence à en acheter une, il commence à en acheter deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, il les fait croître. Et donc, il y a toute une vision qui est restituée par les diagrammes établis par l'architecte qui a fait la restauration, qui montre cette croissance de la maison de Dali à partir d'une somme de cabanes. Et en même temps que le temps passe, l'histoire de l'évolution de la maison, de la cabane vers la maison, se passe de 1920 jusqu'à 1972, je crois, on voit se transformer la cabane en maison. Et on voit se transformer Dali, qui, du jeune poète que j'ai décrit, devient Avida Dollar. Fabrique de billets verts, fabrique de richesses, enfin le produit commercial, le génie de la publicité que nous connaissons. Donc ce passage, cette transformation d'un habitat qui part sur la question de la cabane, mais voulu, hein, c'est pas la cabane de la pauvreté. Il me faut une cabane pour être près du monde. En maison élaborée, telle que pouvait la visiter aujourd'hui la maison de Dali et Gala à Port-Ligat, et en parallèle à tout ceci, il y a la vie du couple qui s'est formée. Et donc, à un moment donné, je mets l'hypothèse. Alors, comme je suis un peu... J'ai un petit peu peur. Je m'abrite derrière des chercheurs du CNRS qui sont femmes. C'est très important qu'ils nous disent que la cabane, c'est un truc d'homme. Et que quand la femme arrive dans la cabane, ça devient une maison. Parce que quand une femme arrive dans une cabane... Probablement, il y a un enfant qui va arriver bientôt, donc il faut pouvoir se clore. C'est fini, la transparence avec le cosmos, ça ne marche plus. Quand vous avez un gamin, il ne faut pas qu'il s'enrhume. Alors là, c'est très intéressant. C'est un colloque à Perpignan sur le thème de la cabane, où je me suis rendu, qui m'a donné beaucoup d'éléments pour risquer cette hypothèse qui peut paraître sulfureuse. C'est vrai, il y a des filles, des enfants qui font des cabanes, évidemment. Donc on va dire, c'est plutôt quand même... Bon, si on étudie la vie des palombières, par exemple, il y a des gens qui disent que dans les palombières, les femmes deviennent un peu hommes, hein, dans la façon d'établir les relations, de se taper sur l'épaule. Enfin, il y a tout... Voilà, là, je dévoile pas plus loin, mais il y a tout un champ d'interrogation de la cabane. Et je pense que l'histoire de Dali, c'est la transformation de cabane en maison, en même temps qu'un homme se transforme. Et là, on peut affirmer, alors là, je ne suis pas tout seul, dire que c'est quand même Gala, la grande architecte de la transformation de Dali dans le produit que nous connaissons.
Oui, c'est plus qu'une... Oui, je dirais que plus qu'une architecte, c'est une perverse, je dirais. C'est l'histoire d'une perversion que tu décris dans ton texte. Parce que moi, je veux bien, de la cabane à la maison, c'est une chose, mais tu vas beaucoup plus loin. Tu dis que sa maison, c'est plus une maison, c'est une attraction de plage. On n'est même plus dans l'habité, on est dans le démonstratif.
Ben oui, c'est le pop art, hein, c'est le pop art avec les pneus Pirelli. Il y a un temple grec qui est fabriqué avec une benne à ordures, celle qu'on voit quand les chantiers évacuent leur déblais sur des colonnes. Il y a une piscine en forme de phallus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un serpent en plastique offert par la sœur de Brigitte Bardot. C'est un capharnaüm, c'est une brocante. Les dernières phases de la maison de Dali. Celle qui intéresse le plus les gens, parce que ouais, c'est marrant, quoi. Mais bon, ça va pas très loin, c'est marrant. C'est pas d'anthropologie. C'est une brocante. C'est une brocante de luxe, mais avec des produits, de la publicité. Donc ça vaut le coup d'aller voir le dernier niveau, enfin, de la transformation. Mmh. Alors que ça avait commencé avec un ameublement, avec les fleurs séchées sur les céramiques. Enfin, un soin qui est un autre regard, qui est tourné vers l'embellissement de la cellule pauvre que l'on a, plutôt que de vouloir en mettre plein la vue aux visiteurs. Quoi. Voilà.
Alors donc, cet ouvrage, donc très polémique, qui est écrit avec un ton particulier, c'est-à-dire que c'est pas simplement un historien de l'architecture ou un architecte, c'est quelqu'un de passionné qui l'écrit, se termine par une conclusion très amère. Semble, enfin, c'est moi l'impression, pessimiste par rapport à l'avenir de l'architecture, et en même temps aussi qui fait un bilan de l'enseignement de l'architecture dans les écoles d'architecture qui semble être catastrophique. Alors, est-ce que j'ai mal lu ? Est-ce que... voilà, je voudrais en savoir un peu plus quand même, parce que... D'abord, parce que j'ai un fils qui fait architecture, ça commence à me faire peur. Et puis, moi, j'enseigne l'histoire de l'architecture, je ne suis pas du tout architecte. Je me demande si tous ces jugements de valeur que je lis sur... Bon, voilà, où est-ce qu'il faut se situer un petit peu maintenant dans tout ça ?
Oui, alors, bon, c'est vrai que c'est un essai. Il y a une partie essai, il y a une partie très polémique, où j'attaque un certain nombre de questions, mais simplement parce que je vois pas pourquoi enfin, il faut pas être focus, je veux dire, il faut un peu s'indigner, comme disait l'autre, un peu quand même, sur certaines questions, et puis oser lever des sujets pour les proposer. Bon, il y a une autre partie qui est quand même... Moi, je pense que la partie sur Dali, moi, je prétends que c'est quand même une belle étude d'anthropologie, excuse-moi.
Mais moi,
donc, il y a une valeur en soi, pas simplement le coup de gueule. J'ai pour Dali le même regard que nous avons tous ici, un phénomène du XXe siècle très, très, qui nous interpelle. Bon, j'ai pas de rejet, moi, de Dali. Simplement, c'était un objet, cette maison était un objet qui m'a paru vraiment idéal à attraper pour essayer de recoller des morceaux. Hein. C'est un objet poétique en plus. Alors, un autre sujet, c'est l'enseignement de l'architecture, bon, qui, bien sûr, mais ça n'engage que moi, et je sais que cet avis n'est pas partagé par tous mes collègues. Hein. Il y en a qui sont très bien. Bon, pour moi, en deux mots, et pour continuer à peut-être être un peu excessif, c'est un mot que tu as eu à mon sujet, tu as raison. Moi, je pense que depuis quelques années, je ne sais pas combien, 5, 6, 4, je ne sais pas, moi, je vis une destruction de l'enseignement de l'architecture. Ouais, on va dire comme ça, bon, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer. Mais il y a ce sentiment donc, qui provoque une urgence quand même de dire un certain nombre de trucs tant que c'est possible, quoi. Je pense en clair, je pense que l'anthropologie que j'ai essayé avec d'autres dans ce pays de développer dans toute ma carrière a du plomb dans l'aile, n'intéresse pas grand monde. Et la formation de l'architecte est une formation au design. Quoi. Ça devient du design, l'architecture. Donc toutes ces dimensions anthropologiques qu'on avait... qui était arrivé dans nos écoles quand nous étions étudiants.
Oui, quand tu étais étudiant, effectivement,
bien sûr,
ce que tu dis. Voilà.
Notamment avec le bouquin de Rudowski, L'architecture sans architecte, cette exposition fantastique qui nous est venue du Musée d'art moderne de New York, présentée à Paris, et qui a mené dans les écoles d'architecture de l'époque, qu'on a bien connu, où on n'avait pas ces objets, nous a mené les architectures du monde. C'est la première fois qu'on voyait sur la table l'habitat des Dogons, les maisons d'Indonésie, les médinas, les habitats africains, les habitats chinois, asiatiques. On n'avait jamais vu ça. Vu ça. Et ces objets-là étaient fabriqués sans architecte. Ça ne veut pas dire sans rien. Il y avait des communautés, il y avait des traditions, il y avait des métiers qui les fabriquaient sans architecte. Donc, à partir de là, ça a attiré l'attention, en même temps qu'on faisait l'architecture, qu'on enseignait, qu'on faisait du projet, sur l'architecture des autres, on va dire. Voilà, l'architecture des autres. Alors, tu as évoqué rapidement mon travail sur Kerouac et sur la question du voyage. L'architecture des autres, il faut aller la chercher. Et c'est évidemment, c'est un véhicule de voyage, quoi. On peut voyager pour attraper la musique, pour aller faire des photos, faire de l'alpinisme. On peut voyager pour attraper les architectures. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, les architectures des hommes ? Tu as évoqué la Chine, où je me suis pas mal investi. Le Turkestan chinois, l'Asie centrale. Elles nous disent les gens. Donc on est au-delà de l'utile. On est au-delà de l'utile. C'est inintéressant, l'utile. Ça va de soi, c'est utile. Donc réduire, comme tu l'as rappelé, certains ont théorisé en réduisant à l'utile on va enlever ce qui est inutile. Là, on a tout faux. Est-ce que c'est utile d'inscrire des versets du Coran à l'extérieur d'un bâtiment, invisible sur les coupoles ou pas? C'est complètement inutile. Est-ce que c'est utile de stocker dans un temple bouddhiste des tankas, des peintures, et de les monter dans les combles de façon que personne ne les voit? Voilà des questions. C'est inutile puisque personne ne les voit. Un collectionneur qui collectionne des tankas, ici à Paris, à Bordeaux, les montre à ses amis. Là, donc, il y a des comportements, il y a un usage des choses qui échappe à nos définitions selon l'utilité. Donc, voilà ce que nous a appris Rudowski quand il nous a montré ses architectures. Et moi, ce que je me suis dit donc 40 ans après, c'est quelles sont aujourd'hui les architectures sans architecte? Alors, c'est plus ces belles architectures que faisaient les Dogons. C'est plus ça. Ça disparaît ou ce sont des objets touristiques. C'est bien de pouvoir les conserver, même pour des objets touristiques. C'est bien, j'en arrive à cette conclusion. Si on ne peut pas faire autre chose, ne les cassons pas quand même. Mais que produisons-nous aujourd'hui? Quelle est l'architecture populaire? Puisque ce sont des architectures populaires. Hélas, elle n'est pas sublime comme l'étaient les villages d'Ogon, de la falaise de Bandiagara. Hélas, elle n'est pas sublime, l'architecture populaire. Elle est le bidonville. Alors là, vous voyez que ça nous renvoie à une question sur le type de civilisation qui produit cette architecture. Les architectes essaient d'embellir, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, quand ils ont des... Ils nous apportent de la beauté, évidemment. Mais il y a ce phénomène énorme de la prolifération de l'habitat humain. Voilà, donc moi, je suis interloqué, je ne sais pas trop comment l'attraper. Et peut-être que là, j'avais mis en exergue la citation de Virilio, là où est-ce qu'elle est. C'est l'intro. Voilà. Donc, dans un chapitre qui s'intitule « Du moderne et du postmoderne », on va retrouver toute la critique du fonctionnalisme. Paul Virilio, dans son bouquin « L'accident originel », il dit la chose suivante. Il dit « C'est une faillite géopolitique ». Qui a pour nom d'emprunt globalisation, accident intégral d'une économie politique qui vient d'atteindre la limite géophysique de son champ d'action. Donc voilà, au bout de ce chemin, il y a ça. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Donc il y a cette interrogation qui, elle, est vraiment globale, quoi, sur l'habité, l'avenir planétaire. Alors on nous dit il est tout urbain, d'accord. À l'horizon 2050, nous sommes 9 milliards, hein, 3 milliards de plus que maintenant, avec les courbes actuelles. Hein, même si on ne fait plus d'enfants, ça ne va pas s'amortir. Donc voilà, quoi. Est-ce que nos architectes vont... Comment on va loger ces 3 milliards? Ils vont se loger. Les gens d'Haïti qui ont été dépouillés par le séisme il y a un an, vous savez qu'il ne s'est rien passé. Depuis, d'ailleurs, il y a 10% du fric qui est arrivé, on n'a rien fait. Mais les gens, ils ont fait, eux. Ils ne sont pas restés sous les étoiles. Ils ont fait quelque chose pour s'abriter. Donc il y a un habitat sur ces 200 000 personnes sans logement. Donc voilà, tous ces phénomènes, comment les attraper? Et enfin, peut-être, dernière provocation, mais elle n'est pas de moi, là. Elle est de Patrick Chamoiseau. Dans son livre qui s'appelle Texaco, qui doit être un prix Goncourt d'il y a 7 à 8 ans, il décrit, enfin, l'histoire se passe dans le bidonville de Fort-de-France, qui est baptisé Texaco. Et le livre commence par la chose suivante, et là, je conclurai là-dessus, parce qu'elle nous interpelle à tous. Il y a un jeune étudiant, là, comme ceux qui sont là, qui arrive, qui a été engagé en stage par la mairie de Fort-de-France, et qui lui dit, bon, ben, tu viens faire ton stage, 3 mois ou autre. Et le gars, il est bardé de diplômes de l'université, master d'urbanisme, etc. Tu vas t'occuper de ce bidonville, tu vas y aller, donc tu vas aller à Texaco. Et le jeune se pointe avec son cartable, son sac. Il se pointe un matin dans le bidonville. Il est architecte et urbaniste. Qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait caillasser. Voilà comment commence le livre. Donc la question, c'est comment se fait-il que quand un urbaniste déboule dans un bidonville, pour les gens, c'est synonyme de catastrophe, de malheur qui arrive. Alors que ce type-là, il n'a pas de casque colonial, il n'est pas avec un chien, on n'est pas dans le colonialisme. Au contraire, il veut le bonheur de ces gens-là, comme tous les étudiants veulent le bonheur pour les gens. Il rentre là et il se fait caillasser, et les gens l'appellent le Christ en plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conscience de ce qui se passe. Ils savent qu'il est bon. Et c'est un homme de couleur en plus. C'est pas la culture blanche qui arrive chez les métis. Pas du tout. C'est l'un des leurs. C'est l'un des leurs. Il l'expulse. Voilà. Alors ça donne un coup quand même quand on est architecte.
Merci, en tout cas, Jean-Paul Loube. Et au prochain bouquin.
Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté.